Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver au Parlement européen pour une nouvelle émission Fréquence Europe. Pour notre retour au Parlement européen, nous avons le plaisir de recevoir la députée européenne Sylvie Guillaume, qui démarre son troisième mandat au Parlement européen et qui préside la nouvelle délégation de l'Alliance Parti Socialiste Place Publique Nouvelle Donne. Bonjour Madame Guillaume.
Bonjour.
Alors depuis les élections européennes du 26 mai, le Parlement européen se met en ordre de marche. Les députés ont retrouvé leur famille politique et ont pu constater quelques changements, notamment la taille de leur groupe politique, puisque désormais, pour atteindre la majorité des voix, les deux grands groupes politiques d'auparavant, les SED et le PPE, ne suffiront plus. Il faudra une troisième, voire une quatrième famille politique. Alors, pour comprendre comment ça va fonctionner maintenant au Parlement européen, j'aurais cette première question. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un équilibre, que le Parlement ne sera pas bloqué malgré ces majorités qui ont changé et ce besoin de se trouver des alliances beaucoup plus larges ?
Non, je crois justement que la beauté de l'exercice, d'une certaine manière, va être d'arriver, selon les sujets, à constituer des majorités qui seront sans doute un peu différentes. Et vous avez raison de signaler que la taille des groupes a changé. C'est beaucoup plus équilibré que cela était auparavant, en tout cas ce que j'ai pu constater ces deux derniers mandats. Et donc cet exercice, ça veut dire que sur chacun des sujets, on va devoir vérifier comment on est capable de faire ce petit pas supplémentaire de consensus qui fait qu'un sujet passe. C'est quand même aussi notre fonction de législateur d'avoir des résultats. Et donc ça, c'est évidemment dans ma famille politique, on sera en tout cas dans ma délégation plus avide de rechercher des accords avec ceux qui nous ressemblent le plus. D'abord, essayer de trouver des accords avec la gauche, avec les écologistes. Mais vous l'avez également signalé, ça ne suffira pas. Et donc, probablement, on aura des choses à faire à la carte avec nos convictions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié, moi, que un des premiers travaux réalisés au Parlement européen, ça a été de se mettre à quatre autour d'une table contre les populistes pour essayer de voir jusqu'où on pouvait aller en termes de discussions communes avec le PPE, les SED, les Verts et puis les libéraux. Et voilà, je trouvais que c'était un exercice de fond intéressant, plus que simplement de faire un calcul arithmétique des majorités.
Mais vous savez bien que c'est difficile à comprendre pour le public français qui est habitué à ces oppositions, à ces clivages politiques. Cette culture du compromis au niveau européen a toujours été mal comprise, déjà parce que les deux grandes forces politiques, que ce soit le PPE et les SED, c'est la droite et la gauche. Là, se rajoutent des libéraux, se rajoutent des verts. Donc, d'une certaine manière,
ça peut être déroutant. Et c'est vrai que de temps en temps, surtout en France, d'ailleurs, quand on utilise le terme consensus, il y a une petite connotation péjorative, comme si on perdait un peu notre âme politique en se rapprochant des autres. Et c'est effectivement pas du tout ce qui se passe au Parlement européen, dans les institutions. C'est très, très différent de ce côté binaire de la politique française. On est droite, on est de gauche et puis rien d'autre. Encore que les choses un peu modifié ces derniers temps. Mais au Parlement européen, on travaille à forger des majorités. Et ça nécessite de faire ces petits pas supplémentaires en direction de l'autre pour trouver le meilleur point d'équilibre. Et ça, c'est vraiment un travail, je trouve, à la fois de liberté absolue politique et puis aussi de travail intellectuel qui est très, très intéressant.
Alors, si on continue à parler des majorités, on continue à parler de votre groupe. Donc, vous êtes dans un groupe qui s'appelle toujours les socialistes et démocrates. Oui. Plus votre délégation qui a changé, une délégation que vous présidez, on y reviendra après. Mais votre groupe, c'est un peu réduit. Mais aujourd'hui, je me posais la question, vu le changement gouvernemental en Italie. Donc, on a une alliance qui s'est créée entre le Parti démocrate, qui fait partie de votre groupe politique ici au Parlement européen, et le mouvement 5 étoiles, qui lui est pour l'instant ce qu'on appelle un non-inscrit. Il n'a pas choisi de groupe, de famille politique à laquelle il souhaite appartenir. Est-ce qu'on peut imaginer dans un avenir, qui pourrait changer un peu les équilibres, puisque les sociétés démocrates pourraient augmenter en nombre, si le mouvement 5 étoiles vous rejoignait?
Alors, sur ce sujet, j'ai un peu le sentiment que le mouvement 5 étoiles, dont il faut dire quand même que les représentants au Parlement européen sont un peu différents, je crois, de ceux qui font de la politique nationale en Italie. Et quelquefois, c'est plus presque plus facile de discuter avec eux qu'avec d'autres. Ça peut paraître quelque chose d'absolument incroyable ce que je suis en train de dire pour un auditeur français, parce qu'on a ce sentiment des 5 étoiles comme des populistes un peu racistes de temps en temps. Alors, il y a sans doute ça dans leur groupe, mais au Parlement européen, il s'est trouvé, par exemple, des gens qui nous ressemblaient beaucoup, qui me ressemblaient beaucoup. J'ai mené, pour donner un exemple, un dossier sur les questions de migration avec une représentante des 5 étoiles qui était parfaitement concordante avec ce que je pensais, moi. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est pour donner cet élément-là. Donc, je n'ai pas le sentiment, toutefois, que les 5 étoiles aient une visée d'entrée dans le groupe socialiste et démocrate. Aux dernières nouvelles, ils étaient plutôt tentés et dragués, pour dire les choses avec un peu de légèreté, par le groupe des Verts pour rentrer plutôt chez eux. Donc pour l'instant, je crois que la décision n'est pas faite. Mais si je peux prolonger votre question, il y aura peut-être d'autres changements aussi italiens et un impact peut-être aussi de la décision que vient de prendre Matteo Renzi, qui a décidé de sortir du Partito Democratico. Donc je ne sais pas.
Grand élu, mais voilà, italien.
C'est italien, mais ça, avec un impact potentiel sur le groupe au Parlement européen. Donc c'est l'instabilité italienne, malheureusement.
Et c'est Matteo Renzi qui est souvent, donc en ce moment, mis un petit peu en avant, où on voit qu'il essaie de renaître politiquement.
Tout à fait.
Alors revenons sur votre délégation que vous présidez ici, intitulée désormais Délégation écologique et sociale française au Parlement européen. Elle est donc composée de 5 membres, elle est relativement réduite. C'est une assez petite délégation, mais dans quel état d'esprit vous êtes pour travailler cette fois-ci finalement à 5, voire 6 lorsqu'il y aura le Brexit, et pour avoir une influence finalement encore au Parlement européen?
Écoutez, je crois qu'on a, pendant la campagne, dit qu'on allait être combatif. On l'a été et on aborde ce mandat dans le même état d'esprit. On est 5 personnes, c'est vrai que vous avez raison de dire que nous sommes dans une délégation resserrée, mais qui a vocation à essayer de démultiplier son influence partout où on aura des lieux où exercer cette influence ou ce pouvoir. Donc l'idée, c'est d'être très combatif, d'être évidemment sur nos valeurs. On défend cette idée que les questions climatiques doivent rejoindre les questions économiques et sociales et que c'est l'enjeu d'aujourd'hui, pas de demain, d'aujourd'hui. Et donc, on a fait aussi un choix d'investissement dans des commissions qui nous semblaient les plus à même de porter ces ambitions. Donc, on est présent sur la commission des libertés civiles avec Raphaël Glucksmann et moi. On est présent dans la commission budget parce que c'est le nerf de la guerre aussi avec Pierre Larrouturoux. On est présent en économie avec Aurore Lalucre. On est présent en agriculture avec Éric Andrieux. Donc en fait, on a fait des choix stratégiques sur là où on pouvait avoir une influence directe sur les pensées et sur les rapports législatifs. Et c'est comme ça qu'on va essayer de défendre justement notre point de vue.
Et vous avez deux personnes, aussi deux élus, j'ai vu, qui étaient vice-présidents du groupe politique social.
Un seul. Oui, Éric Andrieux. Oui.
Ok. J'ai vu, donc le document que j'ai lu contenait bien une erreur. Enfin, ça m'a surpris et après je l'ai pris comme fait au lieu de vérifier. Alors, je reviens maintenant à vous. Donc, vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez investi la commission Libé, qu'on appelle communément Libé, mais qui, si on devait la présenter, c'est liberté civile, justice et affaires intérieures. Quels sont les sujets, donc là on voit que c'est assez vaste, que traite cette commission et pourquoi choisir cette commission et aussi quels sont les objectifs que vous avez, puisque vous y étiez déjà membre, dans cette commission-là?
La commission Libé est effectivement une commission que je fréquente depuis 10 ans, qui traite de toute la dimension droits fondamentaux, droits de l'homme, protection des données personnelles, mais avec une visibilité plus importante encore sur les questions de migration et d'asile. Et finalement, si on devait synthétiser les choses, c'est difficile, mais faisons-le. Je crois que l'enjeu majeur est de savoir comment on débloque les discussions sur la question justement migratoire et de l'asile. Depuis de très nombreuses années, je crois, là aussi pour schématiser, que le Parlement européen a fait un travail sérieux et rassemblé sur les questions d'asile, a fait des propositions pour trouver des solutions aux personnes qui arrivent et aux pays qui sont confrontés à des flux importants, a dépassé un certain nombre de clivages pour trouver des majorités. Et malheureusement, les États membres, le Conseil, ne bougent pas d'un pouce sur ces sujets et bloque les solutions. Et donc du coup, on a finalement atteint une espèce de moment très particulier où on ne bouge pas, mais les problèmes continuent d'exister et le Parlement n'arrive pas à faire valoir son point de vue. Donc l'enjeu, si je peux le résumer, ça va être de débloquer les discussions sur les politiques migratoires et d'asile, de trouver le meilleur accord possible sur la répartition des personnes qui arrivent et puis de bouger peut-être la clé de voûte de l'asile qui est le règlement Dublin et donc cette possibilité qu'ont les gens, enfin cette obligation qu'ont les gens plus exactement de déposer asile là où ils franchissent les frontières de l'Union. Si je devais également évoquer quelque chose d'important pour moi, ça serait également tout ce qui concerne les frontières et Schengen. Je crois que l'espace de liberté de circulation est très menacé dans l'Union européenne, par les populistes notamment et par un certain nombre d'attitudes. Et Schengen, c'est pour moi vraiment un des piliers importants de l'Union.
Alors maintenant qu'on a vu les blocages, on voit aussi qu'il y a des autres nouveautés. Hein. Le Parlement a été nouvellement élu, mais indirectement la Commission change également. Donc, est-ce que cette commission qui change pourra y faire évoluer certaines choses, et notamment sur certains sujets? Alors, le 17 juillet, le Parlement a donc, à une courte majorité, entériné la proposition des chefs d'État et de gouvernement qui proposait donc l'ancienne ministre de Défense allemande, Ursula von der Leyen, comme présidente de la commission. Donc, elle est maintenant là. Présidente de la Commission. Elle revient vers vous maintenant avec un collège de commissaires, avec 27 autres commissaires qui ont été proposés par les États.
26.
Et oui, c'est vrai, il n'y a plus le Royaume-Uni qui est pour l'instant membre, mais qui n'a pas son commissaire. Et donc, elle vient avec ces 26 nouveaux commissaires en leur ayant attribué à chacun des fonctions. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est que vous, le Parlement européen, quel est votre rôle avec cette commission? Quel va être votre travail? Et d'abord, la première question que je voulais vous poser, pourquoi finalement, on vous l'avait dit, hein, vous l'avez aussi justifié, mais peut-être pas à notre micro, c'est pourquoi vous n'avez pas voté pour cette candidate qui a quand même été approuvée par certains membres de votre groupe politique, notamment les Espagnols, je crois.
Oui, tout à fait. Mais Mme von der Leyen a été élue de justesse, on va dire. Hein. Elle a été élue à 8 voix de majorité. Donc, nous n'étions pas les seuls à être contre sa candidature. Non, il nous avait semblé, mais qu'elle ait beaucoup amélioré son discours en une quinzaine de jours, qu'elle restait peut-être à donner des gages à tout le monde. Et quand on donne des gages à tous les groupes, ça ne fait pas une politique cohérente. Et donc, on était très insatisfaits sur le contenu de ce qui était proposé. C'était sur la forme, une facture tout à fait intéressante, mais sur le fond assez peu creusé et assez peu précis. Et malheureusement, cette impression de flou demeure avec le point que vous avez soulevé, qui est la composition du collège, puisqu'on a maintenant des idées claires sur qui est proposé par qui et sur quel type de fonction. Et très sincèrement, il y a lieu de se poser un certain nombre d'interrogations sur les intitulés de certains des commissaires.
Voilà, revenons à l'intitulé qui a fait beaucoup de bruit le lendemain de la proposition du collège. Donc, si je ne me trompe pas, c'était le 10 septembre, avec notamment le vice-président grec, hein, Margaritis Chinas, qui était l'ancien porte-parole de la Commission, qui est maintenant commissaire grec, et qui, lui, donc, est vice-président en charge de la défense de notre mode de vie. Alors ça a fait un branle-bas de combat tout de suite. Tout le monde a réagi par rapport à cet intitulé. Déjà, qu'est-ce qui vous choque dans cet intitulé? J'aimerais le comprendre. Et pourquoi vous êtes contre? Et ensuite, est-ce que vous en faites un élément de blocage pour entériner cette commission? Tant que le nom n'est pas changé, vous ne voterez pas pour cette commission.
Ce que je trouve, il y a plusieurs choses que je trouve choquantes dans cet intitulé, mais cette protection du mode de vie européen est quelque chose qui tend à penser que finalement les populistes ont gagné, que ceux qui sont les plus éloignés de l'état de droit, qui sont les plus réticents à une Union européenne accueillante, ont gagné. Et c'est ça qui est très gênant. C'est-à-dire que, en gros, si on devait là aussi caricaturer les choses, Viktor Orban disant qu'il ne veut accueillir personne et qu'il veut protéger le mode de vie européen a gagné dans les mots de Ursula von der Leyen. Et c'est ça qui est très gênant. Cette idée que on est strictement sur la défensive, que finalement, parce que le commissaire grec a les frontières et la migration dans son portefeuille, finalement, on est très défensif et les barrières sont encore érigées. Il n'y a pas que cette terminologie. Vous avez raison de dire que ça a soulevé beaucoup de remarques, mais il y a plein de choses qui font réagir dans les intitulés. Parce qu'ils ont l'air d'être assez peu précis ou sortis de la tête de je ne sais qui. Quand on voit qu'il n'y a par exemple plus éducation, plus culture, pas recherche, C'est quand même très inquiétant. Quand on voit que à l'économie, on veut une économie pour les gens. Oui, évidemment. Enfin, ça paraît une telle évidence. Quand on voit, par exemple, que le commissaire hongrois, qui est ancien ministre de la Justice, qui a pris de très, très grandes libertés avec l'état de droit et commissaire à l'élargissement, c'est-à-dire qui va donner, en gros, le mode d'emploi de l'entrée dans l'Union. Dont le respect des droits de l'homme, alors que lui-même n'en est pas le parangon, c'est quand même très, très étonnant. Quand on voit une commissaire portugaise qui a à la fois la politique de cohésion et les réformes, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas cette espèce de conditionnalité à bénéficier des politiques de cohésion à la réforme des modes, des économies nationales. Donc il y a plein de questionnements sur cette terminologie. Ça va nous obliger à être très vigilants dans les auditions, à demander des précisions, à poser des questions au commissaire et sans doute de demander un certain nombre de modifications d'intitulé.
Encore faudrait-il comprendre, parce que je regardais votre commission, donc commission Libé.
Oui.
Si on regarde brièvement les titres et ce qu'on appelle les lettres de mission qui ont été données à chacun de ces commissaires, il y aurait 5 commissaires que vous devriez auditionner qui ont un sujet qui fait partie de votre commission parlementaire.
C'est exactement. Ça, j'ai fait les mêmes comptes que vous. Et ça veut dire effectivement qu'il y a une sorte de dilution le sentiment que plusieurs commissaires se surveillent respectivement, qu'ils sont sous supervision, qu'il y a un morcellement des responsabilités. Donc tout cela devrait être...
On ne sait pas lequel va s'occuper des droits fondamentaux, par exemple.
Par exemple, ou de l'état de droit. On peut se dire que c'est Mme Jourova ou c'est M. Reinders, ou les deux. Donc tout cela, effectivement, alors que l'état de droit a quand même été ce qui a fait chuter Frans Timmermans d'une certaine manière comme président de la commission, donc ça a une importance capitale. Là, il y a une dilution du sujet et ça va nous demander, je crois, énormément de boulot de détermination.
Quel sera le calendrier de ces auditions?
On est en train de le forger parce que justement, il faut faire ce travail de dentelière, de faire passer tous ces commissaires au bon moment auprès de la bonne commission. Donc on commence à avoir un planning, on en a une petite ébauche là sur 3 semaines qui, je pense, vont être bien chargées.
Vous pensez que la commission pourrait être entérinée à la prochaine législature?
Oui, tout à fait. Oui.
Ok. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu le travail, le premier travail, je dirais, du Parlement nouvellement élu, puisque en gros, c'est de se mettre en ordre de marche dans toutes les institutions, j'aimerais avoir cette fois-ci un peu votre opinion, on va un peu élargir le sujet sur... d'autres choses qui se passent ailleurs, notamment le Brexit. J'aimerais comprendre si vous comprenez Boris Johnson, parce que plus personne ne comprend rien. Est-ce que vous, ici, vous en parlez? Est-ce que vous imaginez un délai possible? Dans quelle situation, finalement, on est? Et est-ce que le Royaume-Uni va pouvoir demander un délai, va avoir un délai après le 31 octobre? Qu'est-ce qui va se passer?
Je comprends votre désarroi. Nous le partageons. Je crois qu'on est très, très nombreux à le partager. Et si quelqu'un détient la clé de savoir ce qu'exactement veut Boris Johnson, on sait ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est à peu près clair. Mais le problème que nous avons tous, c'est que plus personne ne sait exactement ce qu'il veut et quelle solution
il préconise. Il ne fait plus de propositions, c'est ça?
Il ne fait pas de propositions. Celles qu'il prétend qu'il en fait et celles qu'il ferait ne sont pas praticables. Donc, c'est sincèrement un très, très sérieux problème. Parce que le Royaume-Uni est évidemment un membre absolument fondamental de l'Union européenne. Son départ doit être ordonné. Donc, nous, on part du principe qu'on a notre mot à dire, que les parlementaires ont été plutôt rigoureux et plutôt sérieux sur ce sujet. Donc, on dit au Royaume-Uni qu'on veut bien admettre qu'il n'y ait pas qu'il y ait un délai. Mais ce délai, ça veut dire qu'il faut qu'il soit assorti d'un nouveau référendum, en tout cas d'une élection, parce qu'on ne peut pas, comme ça, jeter le bébé avec l'eau du bain. On dit qu'on ne peut pas faire la peau des accords du Vendredi Saint et de la paix en Irlande. On dit qu'on ne peut pas faire la peau ou mettre en danger les droits des citoyens britanniques qui sont sur le territoire de l'Union ou les Européens qui sont résidents au Royaume-Uni. On dit également que ça ne peut pas se solder par le fait que le Royaume-Uni ne paye pas sa dette auprès de l'Union. Donc on rappelle un certain nombre de lignes rouges à Boris Johnson pour donner le sentiment le plus clair d'une Union européenne qui pense sereinement comment doit se régler la séparation par rapport à un comportement totalement erratique du Premier ministre britannique.
Mais en pensant à Boris Johnson et à ce qui va se passer, finalement, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est prête, elle, à gérer un no deal et une sortie directe?
Ah oui, on sera prêt. C'est malheureux, c'est un désastre pour tout le monde. C'est surtout pour la démocratie européenne un constat d'échec. Mais cet échec, il est exclusivement.
Et pour la démocratie britannique.
Britannique
aussi,
bien sûr. Est-ce
que vous, en tant que membre de la commission Libé, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à regarder par rapport au fait qu'il ait suspendu son propre parlement de cette manière-là ?
Tout à fait, parfaitement. Alors, il en a le droit constitutionnellement. Après, on peut trouver que c'est praticable ou pas. Mais on n'a pas le jugement, il n'est même pas là maintenant. Le jugement, il est de considérer que s'il n'y a pas de deal, si on se quitte sur un no deal, la responsabilité, ça sera celle du Premier ministre britannique. Et ça, je pense qu'au devant de l'histoire, par rapport à une grande démocratie comme le Royaume-Uni, c'est vraiment désolant que ça se termine comme ça.
Alors j'aimerais terminer l'émission un petit peu sur une note d'ouverture pour mieux vous connaître. Alors je reprenais une citation, on dit souvent que « dis-moi ce que tu aimes, je saurai qui tu es ». Et nous, on a un petit peu envie de vous connaître, même si vous êtes déjà là depuis 10 ans. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner de lecture, un conseil de musique, un conseil de série, de film, ou voire d'une exposition que vous avez lue, que vous avez vue, et que vous voudriez nous dire, regardez ça, moi ça m'a plu, c'était quelque chose de très chouette.
Alors écoutez, je vais faire le lien avec notre dernière discussion, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous conseille à tous, si je peux me permettre, de regarder une série britannique qui s'appelle Years and Years, avec notamment Emma Thompson, qui parle justement du post-Brexit. Alors, c'est une famille qui est une famille multiculturelle assez intéressante, qui est confrontée à ce post-Brexit, avec Emma Thompson, qui est la première ministre populiste, ultra populiste du Royaume-Uni après le Brexit. Et c'est une histoire qui s'étend jusqu'en 2032, je crois, et qui à la fois un peu foutraque à la manière des séries britanniques, et sympathique souvent vis-à-vis de cette famille, et surtout hyper anxiogène sur les dérives de la démocratie, les dérives du populisme, comment un régime démocratique bascule à un moment donné à la faveur, si je peux m'exprimer ainsi, d'un gouvernant qui délire. Ça s'appelle Years and Years.
Et je crois que ça passe sur Canal+.
Hein. Sur Canal+. C'est à la fois très anxiogène et en même temps, ça remue beaucoup de certitudes.
Ben merci Sylvie Guillaume pour nous avoir consacré un peu de temps pour cette session d'ouverture, on va dire, d'après vacances. Je vous souhaite un excellent mandat ici de nous, au Parlement européen. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.